Bienvenue dans le Poddy Hub, un podcast du Neighbor Hub. Mais qu'est-ce que le Neighbor Hub ? C'est une maison solaire au cœur de la Blue Factory à Fribourg. Le Neighbor Hub encourage une réduction de la consommation d'énergie et fonctionne comme une maison de quartier en proposant diverses activités. Au gré des saisons, le Neighbor Hub change le rythme. Et pour son programme d'hiver, j'ai voulu apporter un petit peu de chaleur et de flamboyance. C'est avec cette idée en tête que j'ai choisi les invités de ce podcast. Vous découvrirez chaque semaine de nouvelles personnalités qui, dans leur domaine et avec leur talent, apportent une bouffée d'air chaud à cette ville. Les épisodes sont enregistrés chaque dimanche dans le Neighbor Hub et sont suivis d'un moment de partage autour de Bissap et de Beignet. Si vous voulez interagir avec les invités de la semaine ou que vous êtes juste gourmand, vous êtes les bienvenus dès 18h à la maison. Dans cet épisode, j'ai eu le privilège de recevoir Gamedi. Je l'ai rencontré dans le milieu du coworking à Fribourg. Son regard sur la ville est rafraîchissant. Gamedi est une personne éclectique qui a vécu plusieurs vies en Espagne, en France et en Suisse. Il navigue également dans le milieu de la production visuelle, musicale et la réalisation de projets atypiques comme il l'explique dans cette conversation. On aborde le processus de création, de savoir être au bon endroit au bon moment pour faire vivre ses projets ou en commencer de nouveau.
Comment tu vas ?
Bah, très bien, merci d'avoir invité, ça fait plaisir.
Merci beaucoup d'être venu.
Ouais.
Je voulais absolument t'inviter, je crois que je commence tous les podcasts comme ça.
Ok.
Non, mais je voulais absolument te recevoir dans cette maison parce que je trouve que c'est une maison qui est un peu mixée dans le sens où elle est écologique, mais elle accueille plusieurs activités. Et puis il y a aussi un petit espace de corps. Et toi, tu navigues en fait dans le coworking, ouais. À Fribourg, ouais. À Neuchâtel.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais ?
Alors, concrètement, ben moi en fait, je suis donc directeur d'exploitation pour Vibration Working Share. Concrètement, ce qu'on fait, on offre des espaces de travail pour les travailleurs indépendants et pas que. Donc aussi, on aimerait bien qu'il y ait différents types de personnes qui fréquentent nos centres, dont notamment des étudiants, etc. Mais vu qu'on a un service qui est payant, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment se le permettre. Mais en gros, c'est ça en fait. On offre des espaces de bureaux pour que les travailleurs indépendants ils puissent vraiment s'installer chez nous et puis qu'ils puissent aussi réduire leurs coûts en les partageant avec d'autres personnes, quoi. En gros, c'est ça.
Voilà. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'à Vibration, on peut retrouver en fait ce côté calme qu'ici, on n'est pas toujours assuré d'avoir. Par contre, ici, on est assuré d'avoir un côté convivial, amical. Ouais. Et de la nourriture qui traîne un peu partout, mais aussi la nourriture, j'ai l'impression.
Oui, il y en a.
Voilà, celui-là est un peu éclectique, et puis j'ai l'impression que tu es une personne très éclectique.
Oui, en effet, ouais. J'ai un parcours qui est, je sais pas comment le qualifier, mais en fait, je suis passée par beaucoup d'endroits.
Déjà, c'était ça ma question.
Ouais.
Alors, j'étais grave googlée.
Oui.
Et du coup, je suis tombée sur une page Medium, où tu disais que tu étais née... et que tu as grandi en Espagne et en France. Alors, je savais pour la France, mais pour l'Espagne, non ? Du coup, tu parles espagnol.
Oui, je suis de nationalité espagnole.
Ok, voilà.
Donc, en gros, je suis née à Saragosse, donc dans la région d'Aragon, en Espagne.
Ouais.
J'ai passé là-bas 7 ans de ma vie. Donc, j'ai commencé l'école là-bas. Et puis après, mes parents, en fait, ils voulaient vraiment qu'on ait une éducation à la française parce qu'ils sont sénégalais, ils ont encore un peu cet esprit de se dire que l'éducation nationale française est toujours meilleure. Donc, on a déménagé au Pays Basque. Donc, on habitait en Espagne, mais on allait à l'école en France. Donc, on habitait à Irún, c'était à la frontière, c'est à 3 km en fait d'Hendaye.
Ouais.
Et on allait à l'école, bah, du coup, à Hendaye. Et puis après, j'ai fait le lycée, donc c'est le cycle ici, comment ça
s'appelle ? Gymnase.
Voilà, donc le gymnase en France, à Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, ça c'était il y a maintenant quelques années. Et puis après, une fois que j'ai terminé le gymnase, donc je suis parti faire une année de philosophie à Bordeaux.
Mm-hmm.
Et après, je suis parti à Marseille pour faire mon bachelor. Et après, je suis venu en Suisse.
On a toute la biographie.
Ouais, mais je suis toujours restée dans le sud, mais en gros, c'était un peu le parcours.
Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit et d'aller où tu parles une langue et d'étudier dans un autre endroit où tu parles une autre langue ? Déjà, pardon, mais tes parents, ils sont incroyables.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, ils ont choisi d'habiter en Espagne à la frontière exprès.
Ouais.
Mm-hmm. Okay.
Pour que nous, on puisse aller à l'école en France. Donc, moi, j'ai énormément de respect parce qu'ils ont eu un parcours migratoire très intéressant. Et puis, ils ont toujours mis un petit peu nos intérêts en avant. ils sont partis du Sénégal très tôt, ils se sont rencontrés au Maroc en fait.
Okay.
Et ce qui est marrant, c'est un fun fact, c'est qu'à la base, ils partaient pour la Norvège. Donc okay. J'aurais pu être un Norvégien, mais voilà. Non, finalement non. Donc finalement, ma mère est tombée enceinte quand ils étaient en Espagne, donc mm-hmm. ils ont décidé de rester. Et après, ils sont partis vers le nord de l'Espagne.
D'accord.
Mais honnêtement, c'est courageux de leur part en fait d'avoir fait ça, et puis c'est pour ça que j'ai énormément de respect. Et puis la plupart, je pense, de l'énergie que j'ai au quotidien, c'est je l'appuie là-dedans, parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, quoi.
Du coup, en fait, t'as pas peur de changer d'endroit?
Non, pas vraiment, non. Enfin, ouais. Justement, je crois que j'ai besoin de changer d'endroit. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie de Marseille pour aller vers la Suisse.
Ouais.
C'est que honnêtement, ça me motive d'avoir toujours ce challenge de démarrer quelque chose et puis de me dire, ok, dans n'importe quel endroit où je suis dans le monde, je peux créer quelque chose et connecter avec les gens et me construire aussi d'une certaine manière en fait. Donc ça m'intéresse en fait de bouger et puis d'aller dans plein d'endroits différents. Et donc voilà, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai fini ici à Fribourg, sachant que je devais aller à Genève à la base. mais voilà.
Ok, mais je trouve ça assez dingue parce que tu crées toujours. Comme tu viens de le dire. Mais à chaque fois que tu arrives dans une ville, tu crées autre chose.
C'est vrai.
Enfin, dans le sens, c'est pas dans le même domaine. Donc à Marseille, j'ai vu que tu as fait partie du SUP du SUB. Non, je vais dire quoi. Ouais, SUB de SUB. Ok. Est-ce que tu peux expliquer en bref ce que c'est et quelle était cette aventure?
Alors, SUB de SUB, à la base, ça a été créé par un collectif d'artistes internationaux, donc qui s'appelle LFKS, donc qui est géré par Jean-Michel Ouvrière. Et le projet principal, c'était de créer un film, donc un long métrage sur les Indiens Guayaki, donc en fonction d'une œuvre en fait de Pierre Clastre. Donc juste pour une petite parenthèse, les Indiens Guayaki, c'était vraiment la dernière population primitive qui se gérait d'une forme anarchique, en gros. Donc ils n'avaient pas de règles, ils n'avaient pas de dirigeants, mais ils arrivaient quand même à garder justement une certaine construction sociale. Et l'idée, en fait, c'était de reproduire un petit peu leur mode de vie, mais dans un environnement post-apocalyptique. Donc ça, c'était l'idée du film. Donc, comment il y a eu ce lien entre, du coup, ce collectif d'artistes et puis le groupe de jeunes qu'on était, nous, donc à l'époque, c'était que, justement, nous, on était toujours intéressés par le monde de l'art, etc. Donc on était rentrés en contact avec Jean-Michel. Enfin, il était rentré en contact avec nous aussi.
Comment il vous a trouvé? Comment on vous trouve?
Alors,
Marseille, c'est grand. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs.
Mm-hmm. Alors, à la base, il y avait eu un premier film sur les Black Panthers. Donc, quand Jean-Michel cherchait des jeunes, justement, pour faire ce film-là, il était tombé, du coup, sur le groupe de jeunes. Moi, je les avais pas encore rejoints parce que je venais un peu plus tard. Et puis, du coup, ils ont fait un film, un documentaire sur les Black Panthers. Ils sont reproduits à Chicago et puis aussi à Marseille. Et donc, il y a eu un bon feeling entre ce groupe de jeunes-là, du coup, que j'avais pas encore rejoint, et Jean-Michel. Donc il a proposé de faire un deuxième film, donc le fameux film dont je parlais avec les Indiens Guayaki. Mm-hmm. Donc ça c'était un peu le lien, comment il s'est fait.
D'accord.
Donc du coup, le rapport avec SUB de SUB, c'est que pour créer ce film, il nous fallait plein de domaines qu'il fallait qu'on maîtrise d'une certaine manière, donc l'anthropologie, le tir à l'arc, faire du cheval, se déplacer en montagne, mm-hmm. il y avait beaucoup de choses qui devaient être maîtrisées. Donc en fonction de ça, il y a eu une formation qui a été créée. Donc ça a été appelé formation à la liberté, parce que du coup c'était en fonction de ce que nous on avait besoin d'apprendre. Lui il mettait en place son réseau pour qu'on l'apprenne, en gros. Et puis c'est de là en fait qu'on a commencé à faire des cours de théâtre, on a commencé à faire du tir à l'arc, de l'anthropologie, des arts martiaux aussi. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses qu'on a appris en l'espace de 2 ans. Et puis c'était des formations qui se faisaient sur 4 jours chaque mois pendant une année environ.
Comment on quitte un espace qui est aussi qui nourrit autant?
Comment on quitte?
Parce que finalement, après, t'es revenu pour la Suisse, non?
Ouais.
C'est calme, la Suisse.
C'est vrai. En fait, le truc, c'est que moi, en parallèle de ça, je faisais quand même mes études à l'Université de Marseille. Et quand j'ai eu mon bachelor, donc j'ai fait une année où je me suis vraiment consacré que à SUB de SUB, mais je me suis dit quand même qu'il me fallait un petit background, et aussi à la pression des parents qui disaient, c'est si bien sympa de tirer à l'arc et de faire du kung-fu, mais comment est-ce que tu vas te nourrir plus tard? Donc c'est vrai que du coup c'était un peu la première impulsion pour partir. Mais je voulais quand même garder une certaine proximité avec ce que j'avais construit à Marseille. Donc il y a ma sœur qui est à Genève, donc qui fait ses études de droit, et qui me dit, ouais, mais viens en Suisse, c'est bien, tu verras, en plus c'est pas trop loin de Marseille, et puis tu pourras faire un peu ce que tu veux, etc. Donc du coup, ça a été de là que je me suis dit, bon, ben, je tente l'aventure, mais quand même, je garde le contact avec Marseille. Donc c'était pas vraiment partir et tout laisser en arrière, c'était partir, garder un contact. Et puis d'ailleurs, le projet a beaucoup évolué depuis. Donc maintenant, Sud de Sèvres, c'est devenu un projet national. Donc il y a deux campus, donc il y en a un à Marseille, un à Paris. Et c'est un projet aussi qui est soutenu par l'État français, donc ça a pris pas mal d'ampleur. Et puis justement, enfin, jusqu'à le mois dernier, je bossais encore dedans parce que j'avais encore un peu de temps à consacrer. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, oui, ça reste un projet qui a encore beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur et qui a encore beaucoup de place. Dans mon esprit, mais du coup, j'ai plus suffisamment de temps, bah, du coup, à cause de Work in Share, pour me consacrer à ça. Quoi.
Est-ce que tu n'as pas envie d'amener un petit peu de ce que tu as appris, en fait, de ce que tu as retiré de Marseille à Fribourg?
Ça, clairement, hein, bah, justement, j'ai envie de créer des projets. Pour l'instant, c'est encore la phase vraiment embryonnaire, mais c'est en cours. Genre, en 2020, j'aimerais bien justement créer un petit. Pas un sub de ça, mais en tout cas de créer une impulsion pour que des jeunes justement de quartier puissent, ou des jeunes qui sont simplement défavorisés, qui n'ont pas l'opportunité de créer leur opportunité, entre guillemets, qui puissent le faire à travers une structure qui soit solide. Mais justement, la Suisse, c'est pas la France, donc je ne sais pas encore comment
ça va. C'est ça que je vais te demander, parce que tu as un regard externe, en fait, sur cette ville, sur comment les choses fonctionnent. Ma question, c'est un peu comment tu fais pour repérer les opportunités ou ce qui manque. Et te dire, ah ben là, ça, c'est faisable maintenant.
Je pense que c'est surtout à travers les rencontres. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore discuter un petit peu de leur situation, de leur réalité. Et en général, quand tu rencontres les gens, tu te rends compte assez vite de ce qui manque ou en tout cas ce que toi, tu pourrais apporter pour combler ce manque. Donc ouais, je pense pour répondre à la question, ça serait vraiment ça, c'est vraiment en rencontrant les gens et puis en discutant avec eux, en s'intéressant aussi à eux, quoi, d'une certaine manière. Donc,
Et qu'est-ce que tu penses des Fribourgeois?
Les Fribourgeois...
Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu discutes avec les personnes, et puis c'est à travers ces discussions que tu peux voir les opportunités, ou ce qui manque, ou ce qu'ils ont besoin. Donc, qu'est-ce qui t'a dit... Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire, plutôt, ah, voilà, là, je peux refaire un petit peu ce que j'ai fait à Marseille, ou autre chose, complètement, mais qui correspond à cette ville?
Pour l'instant, ouais, ça serait plutôt autre chose, mais... la première impression que j'ai eue de Fribourg, c'était quand même une ville assez ouverte, parce que quand même quand je suis arrivé en Suisse, j'avais quand même ce stéréotype de se dire les Suisses sont un peu fermés, etc. Donc en soi, j'ai pas vraiment ressenti ça, mais aussi c'est peut-être aussi par ma nature, parce que dès que je suis arrivé, je me suis dit faut que je rencontre du monde, donc du coup j'ai fait plein de trucs différents, je suis rentré dans des associations, du coup je suis rentré à Unifactory, je suis rentré dans une société étudiante, j'ai fait plein de choses ultra différentes pour voir un petit peu.
Société étudiante,
c'est quoi? Zofing, du coup.
Ah, c'est pas ce truc très fermé.
Honnêtement, c'est ce que je pensais, mais j'avais envie de le découvrir par moi-même et savoir si c'était vraiment le cas. Et honnêtement, j'ai pas du tout trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé vraiment des personnes qui sont très très ouvertes. En fait, c'était mon coloc à l'époque
qui
faisait partie de Zofing, qui m'a dit viens voir un peu, fais-toi une idée par toi-même. Et puis. Honnêtement, je ne regrette pas, parce que c'est tout ce que j'ai appris pour l'instant de la Suisse, historiquement, et puis les traditions, les valeurs, etc., c'est surtout à travers cette société.
J'ai l'impression que c'est un peu la fraternité qu'on pourrait avoir en Suisse.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment à la Suisse, quoi. Donc, il n'y a pas ces histoires de bizutage ou des trucs vraiment comme on peut voir aux États-Unis. Et il n'y a pas aussi cet esprit fermé. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça. Et honnêtement, maintenant je suis un peu moins actif parce que du coup j'ai un peu moins le temps, mais je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment appris énormément en rejoignant cette société, quoi.
D'accord.
Donc, voilà.
C'est fou. Donc en fait, les gens sont ouverts, mais il faut faire ce pas vers eux, c'est ça.
Je pense que c'est ça. Mais honnêtement, que ce soit en Suisse ou partout, je pense que c'est un peu la leçon que je tire. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas fermés en soi tant qu'ils voient qu'il n'y a pas un intérêt sincère en fait envers eux. Que c'est pas intéressé ou que c'est pas que c'est juste de la curiosité, en fait. Moi, quand j'appréhende quelque chose, quand je sais pas qu'est-ce que c'est, en général c'est juste une curiosité juste saine qui me pousse vers ça, et puis ça m'ouvre pas mal de portes au final, quoi.
Ouais, c'est fou que tu vois Fribourg comme une ville ouverte, mais c'est vrai que c'est une ville ouverte. C'est vrai que les gens sont sympas, mais souvent il y a quand même cette impression que on discutait ça dans le dernier épisode, je crois, avec Vanessa, où les personnes sont un peu difficiles à accéder, mais une fois qu'elles t'ont accepté, par contre, elles t'ont vraiment accepté. Donc, c'est c'est pour la vie.
Non, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que la relation de confiance, elle est là, c'est... Si on fait n'importe quoi, oui, elle va se briser, mais si en tout cas on reste soi-même et puis que les gens te découvrent comme ils t'ont découvert au premier jour, il n'y a pas... J'ai pas eu vraiment d'expérience où je me suis clashé avec des gens, où je me suis... Peut-être ça va arriver, mais c'est vrai que 2 ans, c'est court, mais, mais pour l'instant, j'ai pas eu cette impression-là.
Du coup, dans ton parcours, en fait, après en Suisse, fait à Fribourg, t'as moins eu ce côté d'une approche culturelle ? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'à Marseille, c'était incroyable. Tu vois, au niveau cinéma, art martial, enfin art martiaux, art martial, oui, je sais pas, art martiaux, enfin tout l'apprentissage, tout le spectre de tout ce que vous pouvez faire. Et là, à Fribourg, bah, oui, c'est beaucoup plus du relationnel.
Ouais. C'est vrai que du coup, je considère vraiment Sup de Seb comme ma formation principale, c'est même pas l'université ou quoi, parce que j'ai vraiment appris et puis connu des gens vraiment dans tous les sens. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a construit comme je suis maintenant. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, je suis quand même venu ici pour les études, donc il faut que je me focalise un petit peu. La seule asso du coup que j'ai rejoint en tant qu'étudiante, donc ça a été Unifactory, qui a été aussi une très très bonne aventure. Mais c'est vrai que j'avais moins en fait ce besoin de me tourner vers la culture, enfin, sachant que... J'avais envie de savoir comment fonctionnait un petit peu la ville, etc. Donc, mais j'avais pas ce besoin, en tout cas cette curiosité, d'aller directement vers le dur du dur. Quoi. Donc
peut-être que genre ça... les périphéries d'abord.
Ouais, c'est ça. Donc je commence petit à petit, puis je pense que dans tous les cas, je vais rester encore un temps ici.
Ouais.
Donc je me stresse pas, je me dis pas il faut à tout prix que je rejoigne un truc culturel, etc. Donc pour l'instant, je suis assez chill. Et je pense que ça va venir en fait, c'est-à-dire que les connexions se font. Bah, typiquement, le fait de venir ici, Neighbor Up, je ne connaissais pas. Donc je te remercie vraiment d'avoir fait cet épisode ici. C'est vraiment cool. Et puis je pense que du coup, le fait de venir ici un peu plus souvent, ça va peut-être me créer cette étincelle et puis je vais créer d'autres connexions. Mais honnêtement, ouais, je ne me prends vraiment pas la tête. Je me dis si ça doit venir, ça viendra. Et puis,
voilà. C'est fou que tu disais que tu as appris plus à Sup de Seb. Non, je vais pas réussir à lire.
Sup de Seb. Ouais, tu peux dire Sup de Sub ou Sup de Seb. Sup de Seb.
Sup de Seb. C'est ce qui a été le plus formateur pour toi. Quelles sont les qualités que tu penses avoir reprises de ça?
Je pense. Je sais pas si c'est une qualité, mais c'est. Enfin, ouais, c'est juste de me dire qu'il n'y a pas de barrière. En fait. Ouais, c'est qu'il y a vraiment zéro barrière. C'est-à-dire, si tu as envie d'apprendre quelque chose, tu peux le faire. Ouais. Là, j'ai fait une formation dans le management et le marketing, mais si j'ai envie de faire du codage ou si j'ai envie de faire de la sociologie ou quoi que ce soit, je peux juste prendre un bouquin et puis commencer à m'enseigner dessus. Et puis, petit à petit, ça va.
C'est ça. J'ai vu dans la petite phrase qui est censée décrire Sup de Seb, c'est libérer. Attends. L'autodidaxie, un truc comme ça ?
Ouais, alors ça, c'est la phrase de la nouvelle version de Sup de Seb. La première phrase, c'était être pour la liberté.
Ok.
Et puis là, du coup, c'est école d'autodidaxie. Donc c'est vraiment apprendre
par soi-même. C'était ça. Mm-hmm. Et ça, je comprenais pas. Parce que moi, tu peux faire une école d'autodidaxie. J'ai l'impression que c'était un petit peu contradictoire.
Ouais, ça peut sembler contradictoire parce qu'au final, on est obligé d'utiliser des termes, mais c'est vrai que quand tu regardes la forme actuelle de Sup de Seb, ça ressemble à rien d'autre ailleurs. C'est-à-dire que c'est des élèves qui vont créer eux-mêmes leur programme. Donc en début d'année, en fait, on leur demande qu'est-ce qui t'intéresse apprendre. Et en fonction de ça, du coup, l'élève va créer son programme. Donc il y a deux choses. Il y a une œuvre collective artistique qui va être créée par tous les élèves. Donc il y a 40 élèves par campus. Et en parallèle, en fait, chaque élève va créer aussi son projet personnel. Donc s'il veut être menuisier, s'il veut être beatmaker, s'il veut être réalisateur de cinéma, s'il veut être metteur en scène, enfin bref, il n'y a pas de limite à ce qu'il veut devenir. Et du coup, l'avantage, en fait, c'est que en fonction de l'objectif qui s'est fixé, donc je vais être menuisier, il va devoir apprendre des skills. Et tous ces skills-là, donc c'est lui qui va les fixer, entre guillemets, mais aussi il aura des intervenants, entre guillemets, qui seront là pour le guider d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une école, parce qu'il y a un cadre, mais c'est de l'autodidaxie, parce que c'est en fonction de ce que toi, tu as besoin d'apprendre, et en fonction de comment tu as besoin d'avancer, bah, du coup, sur une année, tu auras un...
Il n'y a pas des moments de crise ou d'angoisse, du coup, dans ce parcours ?
C'est-à-dire
l'impression de... Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans une génération, tu sais, qui est un peu fear of missing out. Et là, c'est typiquement... on te donne carte blanche au début. Donc, tu peux tout faire. Déjà, comment faire un choix? Et puis après, comment s'y tenir? Enfin, comment se dire, ah, mais peut-être si je fais ça, je pourrais pas faire ça. Enfin... Alors, ou d'autres crises d'angoisse, parce que du coup aussi on est toujours débutant en fait, finalement. Puis débutant, c'est pas sympa. Enfin, il y a plein de... Enfin, on sait pas quoi, c'est...
Alors, il faut savoir que les élèves, c'est pas des élèves classiques comme on l'entend. C'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent des quartiers défavorisés à Marseille. Donc, qui en soi n'ont jamais eu le choix. C'est-à-dire on aurait toujours... sans rentrer dans le discours de victime, mais en fait, c'est vraiment des personnes qui, en général, elles ont décroché. On est parti recruter dans des centres pour SDF, des centres pour personnes qui sont atteintes de toxicomanie.
Comment on recrute dans ces centres-là sans paraître intrusif?
En fait, l'idée, c'est que à la base, c'était des personnes qui sont déjà suivies, donc soit par le Pôle emploi ou soit par des structures étatiques. Et on leur a proposé la formation, on leur a dit, voilà, est-ce que toi, tu as envie de faire quelque chose qui soit dans le domaine de l'art, etc. Et puis du coup, c'est des personnes qui sont venues automatiquement vers nous. Donc on n'est pas vraiment parti les chercher en mode, viens, je sais comment te sortir
la
de bonne
là. Bonne parole
voilà. Exactement,
tu vas être sauvé.
C'était vraiment pas dans cette optique-là, c'est vraiment des personnes qui sont venues d'une démarche bénévole. Et par rapport aux crises que tu disais tout à l'heure, justement, c'est compliqué pour elles, en fait, d'angoisser parce qu'elles n'ont pas forcément... elles n'ont pas une vision comme nous, on a, en fait. C'est-à-dire, il faut que je passe mon master dans 5 ans si je veux avoir un job à 26 ans et puis commencer. Et puis, elles n'ont pas cette optique-là. Donc, du coup, elles sont beaucoup plus chill, du coup, par rapport aux choix qu'ils peuvent prendre parce qu'au final, ça sera toujours mieux que ce qu'ils ont maintenant, quoi. Donc honnêtement, je pense qu'il y aura sûrement des moments où il y aura des personnes qui vont décrocher de ça parce qu'elles vont se rendre compte que c'est beaucoup trop libre et qu'elles ont besoin d'un cadre, etc. Mais le fait de les laisser se débrouiller par elles-mêmes aussi, ça va les... enfin, c'est une leçon en soi, en fait. Le fait de dire ok, j'ai tenté ça mais c'est pas mon truc, du coup je vais tenter un truc plus précis. Donc je me dis, dans tous les cas, en fait, il y aura quelque chose à apprendre là-dedans. Et puis au final, je pense que c'est ça aussi le but d'une école, donc il faut que les gens puissent apprendre quelque chose. Et même si c'est cette leçon, même si c'est un échec qui te dit, toi.
Pardon. Bois du thé. Ouais, voilà. J'ai pas envie de dire que je t'ai assassiné.
Non, c'est très bon le thé. Donc,
Oui, on a du thé aussi pendant qu'on enregistre l'épisode.
Ambiance très chill. Mais en tout cas, je me dis, dans tous les cas, il y aura quelque chose à apprendre là-dedans. Donc,
Est-ce que. Pardon. Du coup, je t'ai vraiment googlé. J'ai découvert que tu avais une chaîne YouTube.
T'es tombée là-dessus aussi.
Ouais. En fait, Google ne pardonne pas. Il y a vraiment.
On peut rien effacer.
T'as une chaîne YouTube. Et donc, tu faisais des sons. Où tu mixais un peu deux sons pour faire une belle chanson. Enfin, du type beat, je sais pas si c'était ça ou pas.
Non, en fait, le type beat, c'est vraiment des instrumentales.
Ah, c'est vraiment des instrumentales.
Ouais, justement, pendant ma période à Marseille, donc nous on était fans de musique, je suis toujours fan de musique d'ailleurs, faut savoir que je dors avec de la musique. Toute la nuit. C'est-à-dire que.
Ah oui. Mais c'est pas inconfortable pour. Tu dors avec des écouteurs?
Non, j'ai mis l'enceinte et puis du coup je mets de la musique toute la nuit. C'est pas très cool pour mes voisins, mais honnêtement, ça m'aide à dormir déjà. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau rêve, ça m'amène très loin.
C'est wild, non?
Mais j'ai des petites bandes-son en fait pour mes rêves. Et puis en fonction de comment j'ai envie de rêver, du coup, je me cale des...
Sérieusement?
Ouais, vraiment, j'ai des
playlists. Genre ce soir, j'ai envie
d'aller au Cameroun, donc... non, mais c'est... je suis un grand fan de musique. Okay. Et puis du coup, pendant qu'on a commencé Sub, etc., je me suis dit pourquoi pas devenir beatmaker en fait. Donc, si j'ai envie d'apprendre à faire de la musique, pourquoi pas la faire moi-même, quoi. Et du coup, j'ai appris, j'ai un pote aussi, un très bon pote qui est ingé son, donc il m'a appris un peu toutes les bases pour tout ce qui est fréquence, mixer, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire des tests. Le premier test que j'ai fait, c'était marrant, c'est parce qu'en fait, mon père aussi, il aime beaucoup la musique. Et il avait une clé USB avec plus de. 3000 chansons.
Ok, il aime beaucoup la musique, c'est pas vite fait.
Mais c'était des chansons en plus, mais sorties de nulle part en fait. Et puis j'ai tombé sur un album, c'était c'était la marine arménienne qui faisait des sons. Et
ton père est aussi éclectique que toi en fait.
Lui. En fait, si tu veux, ça va très loin aussi, mais genre mes parents, chaque année, ils vont dans un festival de musique du monde.
Ok.
Et du coup, chaque année où ils vont, ils prennent un CD qui les ont marqués. Et puis mon père, il se fait une espèce de méga compile avec tous les trucs qu'il a compilé un petit peu. Et donc du coup j'ai samplé un espèce de son, mais c'était, j'avais jamais entendu ça, parce que c'était vraiment, c'était un chant guerrier je crois, comme ça. Et puis quand je l'ai mixé, que je l'ai ralenti et que je l'ai un peu chop, j'ai vu que ça faisait, enfin je pouvais l'utiliser pour 36 000 instrus quoi au final. Donc je suis parti de là, donc commencé par sampler. Après je me suis un peu plus renseigné sur les synthétiseurs, etc. Donc j'ai commencé à faire mes propres instrus, etc. Et mes potes à Marseille, ils ont bien kiffé, donc au final, je leur faisais des instrus pour eux, et puis je faisais aussi des trucs pour moi, où j'expérimentais un petit peu plus. Et ouais, donc du coup, au final, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube, et puis poster.
Ouais. Il n'y a plus rien eu, hein, depuis genre 2 ans. Il y a genre 2 ans, il y a eu un truc, à peu près, plus nothing.
En fait, il y a eu un pic, où j'avais même été contacté par Mister Easy, genre il m'avait mis un commentaire sur la vidéo, il disait « Send me an email » et tout, j'étais là « Ouais, trop chaud » et tout, donc j'ai essayé de le contacter par plein de moyens, mais...
Ça n'a pas fonctionné.
Bah en fait, je crois qu'il a une couche de managers, tu sais, qui sont censés bloquer ce genre de requêtes, donc au final, j'ai jamais eu un contact direct.
Ok, Mister Easy, si vous nous entendez, déjà, il faudrait parler anglais, parce que... Est-ce qu'il parle français ?
Non, mais je l'ai écrit en anglais en plus. Mais...
Ah.
Dommage.
So, Mr. Easy, we have Papis. So, that's your name, right?
Yeah.
He's trying to contact you, so please.
Since 2 years, please.
Reply to his email.
Non, mais du coup, ça fait longtemps en fait que j'ai. Bah, depuis que je suis arrivé en Suisse, j'ai pas trop eu le temps du coup de me rendre au beatmaking, etc. Il y avait toujours un artiste au Havre qui s'appelait BBK, pour qui je faisais toujours des instrus. Mais là, ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas vraiment penché dessus et puis mis dessus sérieusement. Quoi.
Okay.
Donc, j'essaie de redémarrer, donc là j'ai repris mon vieux clavier, j'ai réinstallé les logiciels et tout. Mais pour l'instant, en fait, c'est vraiment donc, ce qu'il y a sur SoundCloud et YouTube, c'est ce que j'ai créé. Et puis peut-être d'ici quelques mois, je vais me remettre vraiment sérieusement là-dessus. Quoi. Mais si je me remets là-dessus, par contre, du coup, ça sera avec des personnes d'ici. J'aimerais bien faire un projet avec des artistes locaux, etc. Ça serait cool.
Ben, je connais plein de... Il y a un groupe de filles, de femmes okay. qui font des trucs incroyables en ce moment sur Fribourg.
Mais les contacts.
Big Dina aussi, je sais pas si t'as écouté le premier épisode
de Jean Nocturne. Ouais.
Il fait un truc incroyable.
Okay.
Enfin, Big Dina, elle mixe en fait, okay. mais il y a plein d'autres personnes dedans. Enfin bref.
Okay. Ok.
Should do the connection.
Ok, ouais, clairement.
There's something to hear.
Clairement.
Et... Ah, du coup, tu crées un nouveau collectif, en fait.
J'ai toujours mon collectif Ayobi, parce que ça reste la famille.
C'est ça aussi les questions.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est, Ayobi?
Alors, Ayobi, c'est...
Tu sais, il y a le logo. Ouais. J'ai toujours pas compris le logo.
Mm-hmm. Alors, le logo, ça représente l'alpha et l'oméga. En fait, en gros, à la base, le groupe, il s'appelait AO, donc pour l'alpha et l'oméga. Mais on s'est dit, on aimerait bien un truc avec une consonance qui soit plus aussi, parce que AO, il y en a 36 000 sur Internet, donc on s'est dit, on va vraiment avoir notre truc à nous. Donc du coup, on a mis AOB avec H-E-Y-O-B-I.
Ok,
mais
ça
make sense, tu vois,
j'avais pas compris.
Et puis le logo, en fait, du coup, ça représente qu'en fait, c'est un A avec le rond en dessous.
Ouais. Oui, bah oui, makes sense.
Il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est des trucs Illuminati, non, en fait, non, rien à voir, c'est juste notre logo qui ressemble.
Du coup, tu dis, c'est la famille, donc c'est un peu... Vous êtes rencontrés quand ?
Alors, on s'est rencontrés... Moi, quand je suis arrivé à Marseille, j'étais avec mes cousins, donc tous Sénégalais qui sont dans une... Enfin, je sais pas si c'est connu ici, mais c'est des Baïfals, en fait.
Non.
Alors en fait, si tu veux, c'est une espèce de confrérie au Sénégal,
ouais.
Donc musulmane, mais qui suivent un guide spirituel.
Mmh.
Et ils ont toute une philosophie par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport à comment aborder aussi la religion. Enfin, c'est toute une... Vraiment, c'est une philosophie. Puis quand tu le regardes de loin, on dirait des rastas, mais musulmans, et puis qui habitent au Sénégal. Donc ils ont tous des grandes dreadlocks, ils ont des habits larges, etc. Donc voilà, donc j'ai commencé à fréquenter mes cousins là-bas, et puis ils étaient en connexion avec bah, du coup ce groupe de jeunes de Aix-en-Provence, et j'ai commencé à rentrer en contact avec Russell, donc là c'était complètement random, mais justement on a vite connecté, et puis en fait c'est un groupe que tu repères assez rapidement dans la street, parce que c'est que des métis, et puis ils ont tous des dreadlocks, et c'est vraiment, on dirait vraiment un groupe complètement taré de rappeurs, mais en fait ils sont ultra chill, et puis on a vite connecté.
Puis eux ils sont aussi donc Baïfal, c'est ça?
Ils sont
Baïfal, on dit?
Non, pas du tout.
Ils connaissent juste tes cousins.
Ouais, ils connaissaient juste mes cousins, et puis du coup on est rentré en contact, et puis on a vite connecté, quoi. Et puis du coup, eux ils étaient à fond sur la musique, moi aussi, donc... Les premières discussions étaient assez simples, on va dire. C'était, ça s'est fait assez rapidement. Et puis depuis, en fait, on ne s'est pas vraiment lâché. Même si maintenant, on est tous un peu à droite à gauche dans le spectre global. Mais en tout cas, on est toujours connectés et puis on se parle souvent. Voilà.
C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de connexion que tu fais. Et puis d'un coup, il y a un nouveau projet qui naît de ça.
Ouais.
Est-ce que c'est un peu l'idéal que tu aurais pour Vibration Working Chair? Que les gens qui viennent là puissent en fait, connecter.
Ouais, bah, au final, ouais, c'est ça qui est en train de se passer en fait. C'est qu'à la base, c'était juste un centre de coworking à Fribourg. Donc il y a eu différentes connexions qui ont été faites donc avec les CFF. Donc grâce à ça, on a pu ouvrir à Neuchâtel. Il y a un autre centre qui va arriver à Fribourg. On espérait en 2020, mais apparemment, on a une dernière réunion, ça sera plutôt plus tard. Il y aura Vevey, et puis il y a aussi nos fournisseurs.
Il y aura Vevey ?
Ouais. Ça va arriver aussi en 2020. On a fait plusieurs connexions, notamment avec notre fournisseur de map. Donc, ils ont bien aimé notre... je pense qu'on a un bon capital sympathie avec David. Donc, c'est cool. Et puis, justement, on va faire des... on va faire des petites ouvertures avec eux. Il y aura aussi une brasserie à Martigny, il y aura aussi un resto route à Bavois. Et puis tout ça, ça s'est créé juste au fil de discussion. Et puis on va pouvoir ouvrir en fait plein de petits centres pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on fait, notre concept, notre vibes. et que justement, j'ai l'impression en fait que depuis qu'on a commencé ce projet, ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on n'a pas forcément un gros réseau derrière nous, mais petit à petit, avec les connexions qu'on fait, on arrive à s'agrandir. Et c'est vrai qu'en 2-3 ans, on a vraiment réussi à faire pas mal, et puis l'avenir semble radieux si tout va bien. Quoi.
C'est ça aussi, c'est qu'à Vibration, donc vous êtes deux personnes qui... enfin, plusieurs personnes, mais... qui n'êtes pas faites de Fribourg, de base.
Non, de base, non. C'est vrai que David, il est de Lausanne, il y a Jérôme qui est de Martigny, il y a Chloé qui est... qui est de Bayern, mais toi, t'es d'ici, mais c'est vrai qu'en soi, le projet, quand il a démarré, ça a vraiment été avec des personnes qui n'étaient pas de Fribourg.
Donc comment on fait ce pas de... Enfin, j'allais dire de pas de foi. C'est-à-dire, okay, en fait, on ne connaît pas vraiment le lieu, mais il y a quelque chose à faire.
Ouais. Ben, c'est vrai qu'on
va connaître les gens.
Mais on a vu un grand potentiel. Ben, du coup, on s'est vraiment vite rendu compte aussi que les Fribourgeois étaient assez ouverts.
Ouais.
Et du coup... au début, c'était un peu compliqué parce que personne ne nous connaissait. Et puis, on arrivait un peu comme des ovnis, mais... Ça s'est fait vraiment rapidement et puis on a vu qu'il y avait un gros potentiel quoi, dans la vie. Donc,
C'est quoi les leçons que vous avez pu tirer depuis ces deux dernières années? Allez, c'est... deux grandes leçons. Des fois, je sais que je pose des questions très ouvertes et très compliquées.
Non, mais tant mieux.
Il faut genre...
Honnêtement, c'est une leçon, mais je pense qu'elle me suit depuis tout le temps. C'est vraiment « crois en toi ». Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé ici, petit blague de Marseille, qui essaie de faire des trucs et tout, je me dis jamais de la vie. Mais au final, en fait, les gens s'ouvrent assez facilement les portes. J'ai l'avantage aussi d'être avec David, donc comme lui il est suisse et puis il connaît bien aussi comment faire les choses, en général on s'en sort assez bien. Mais ouais, je pense que si la première leçon, ça serait de croire en soi, même si ça semble très Gary Vaynerchuk et puis très motivational speech, mais je pense que c'est vraiment une grande leçon. Et la deuxième, ça serait de
bien s'entourer, non?
Ouais, bien s'entourer, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un bon petit environnement.
Ouais.
Et puis, mais aussi, j'ai l'impression que l'entourage vient de la vibe qu'on aimait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on
ça attire, devient très...
Ouais, très New Age. Mais... en fait, non, mais j'ai l'impression que on arrive à attirer un petit peu les personnes qui sont dans le même mode que nous, dans le même mood surtout. Et donc, en soi... Quand on garde un peu cet esprit positif et puis on se dit, enfin, quoi qu'il arrive, on y va et puis on croit en notre projet, ça va assez vite et puis ça va assez bien. C'est-à-dire que c'est pas dans la douleur et dans les larmes et le sang, c'est vraiment chaque jour on se lève et puis c'est assez cool quoi, ce qui se passe.
C'est bien que tu parles de douleur et de sang parce que j'ai l'impression qu'autour de lancement de projet, en tout cas de nouvelles aventures, Il y a cette idée qu'il faut hustle hard, work hard, play hard if you want, mais vraiment work hard, really, de lundi au dimanche, non-stop, pas dormir. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que c'est très 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 négatif.
Ouais.
C'est très très négatif parce qu'au final, les gens ils se mettent une pression monstre pour arriver à leurs objectifs. C'est sûr, il faut travailler. C'est sûr, il faut garder une certaine constance, etc. Mais il faut pas non plus tuer à la tâche et puis dire ouais les gars, enfin faire le concours de qui a dormi le moins et puis faire des nuits blanches, etc. Moi, je pense que c'est juste nocif et c'est très toxique en fait. C'est-à-dire que moi on a trouvé un espèce de code avec David, c'est-à-dire que quand il m'appelle et qu'il voit que je suis en mode avion, c'est que voilà, j'ai besoin de ma journée et puis que je ne serai pas là. Mais il sait très bien que le lendemain, je serai là et puis que je vais rattraper un peu tout ce que j'ai à faire. Mais avoir ce besoin constant, en fait, d'être constamment présent, d'être constamment instantané, d'être constamment, constamment là, en fait, c'est juste insupportable, quoi. Enfin, et je pense que si l'être humain, parce qu'au final, on sera tous amenés, enfin, je pense, dans le futur, à créer nos projets. Enfin, apparemment, d'ici quelques années, 40% des personnes seront indépendantes.
Ah oui ?
Apparemment, enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc,
Damn.
Et puis, si on rentre dans une optique genre de dupliquer la productivité et puis d'être constamment comme des robots, je pense qu'on s'en sortira pas, quoi. Donc, j'aimerais bien que les gens aient une approche plus humaine de la gestion des projets, qu'ils aient une approche aussi plus humaine de la relation avec les gens, de comment ils veulent construire aussi, parce qu'au final, construire son projet aussi, c'est se construire soi-même. Donc, si tu veux faire ça dans la douleur et puis dans des choses qui au final te plaisent pas, je pense pas que c'est la bonne approche, personnellement.
Ouais. Est-ce que tu as dû apprendre cette leçon de façon dure ou pas ? Ou t'as eu des mentors qui t'ont dit non?
Un peu des deux, ouais.
Ouais.
Un peu des deux, c'est-à-dire que quand je voyais que je me tuais à la tâche et que... Bah, après, je peux me tuer à la tâche pour des choses que j'aime bien. Typiquement, faire une instrumentale, je peux passer toute la nuit dessus. Avant de me réveiller, avoir les yeux rouges, ça ne me dérange pas du tout. Mais si c'est pour des trucs qui, au final, ne sont pas forcément gratifiants, comme remplir des fiches Excel, je pense que j'ai eu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, surtout mon père, qui me disaient « Certes, il faut faire les choses, mais il faut les faire avec le temps. » Et puis aussi par moi-même j'ai vu qu'en le faisant et puis qu'en me forçant ça marchait pas, que je le faisais forcément mal, donc ouais, je pense qu'il y a eu un peu des deux. Donc il y a eu le côté papa et puis aussi je peux dire que Jean-Michel Brière, bah, du coup là, le directeur de LFKS, donc du collectif d'artistes, il a aussi cette mentalité de travail, mais de savoir comment travailler intelligemment, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a eu ces deux penchants un peu.
Si tu rencontrais un jeune fribourgeois qui veut se lancer et qui ne sait pas forcément comment contacter les bonnes personnes, quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Parce que j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de providence, en fait, dans ton parcours. Non, mais vraiment, rencontrer la bonne personne au moment. Mais du coup, je ne crois pas forcément à la providence. Donc, je pense aussi qu'il faut être aussi au bon endroit.
Au bon endroit.
Comment tu fais pour être au bon endroit? Donc, quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune qui te dirait ben « Voilà, moi, je vais me lancer, je sais pas. Je vais devenir le futur beatmaker, mais je veux vendre mes sons, en fait. Pas juste les créer dans ma chambre, mais qu'on les... »
Qu'ils soient partagés.
Ou alors, je vais lancer mon projet et...
Si tu veux lancer ton projet, ben, viens Vibration Working Journal. honnêtement, je pense que c'est un état d'esprit. Pouvoir se détacher un petit peu des différentes pressions qu'on a. Enfin, moi, j'ai dû faire ça assez tôt, au final, parce que bon, même si j'ai poursuivi mes études jusqu'au bout, surtout par pression parentale, j'ai dû me détacher assez rapidement, de me dire, à 25 ans, il faut que j'ai ma Rolex, à 25 ans, il faut que j'ai mon appart, il faut que j'ai ci, ça. Je me dis, au final, j'ai le temps de le faire, et puis je peux vraiment le faire comme je veux. Et puis c'est vrai qu'avoir cette créativité, vraiment dans la manière dont on vit sa vie, c'est un pouvoir énorme. Et puis je pense qu'il faut vraiment utiliser ça, c'est-à-dire ta vie, tu peux la modeler comme tu veux, et puis tu peux la créer comme tu veux au final. Donc utilise ce pouvoir jusqu'au bout. Et... Donc déjà je dirais se libérer des pressions, ne pas avoir peur d'aller vers les gens, parce qu'au final toutes les personnes sont intéressantes, vraiment toutes. Moi j'ai eu des discussions, c'est une petite parenthèse, mais typiquement j'ai eu une discussion une fois, je prenais le train, d'ailleurs je crois que c'est la première fois que je venais à Genève voir ma sœur. J'ai rencontré un Américain, mais complètement taré, qui venait de Las Vegas, qui était SDF, et qui m'a appris comment ouvrir un coffre-fort.
What?
maintenant, je sais comment ouvrir un coffre-fort, tu vois, mais c'est un truc, une expérience que j'aurais jamais pu découvrir si jamais je me serais pas dit, ouais, peut-être que ce mec, il est intéressant, je vais parler avec lui, tu vois. Donc, ne pas avoir peur d'aller vers les gens, parce que je pense qu'au final, les opportunités, elles sont là. Elles sont pas forcément dans les situations, mais vraiment dans les personnes, et dans le mode avec lequel tu les abordes, quoi. Donc... Ouais, je pense que c'est vraiment garder un peu cette ouverture et puis se dire tout est bon à prendre. Enfin, pardon. Pas tout est bon à prendre, mais en fonction de ce que tu recherches,
ouais.
La situation peut se débloquer d'une manière inattendue, quoi. Donc,
Donc en gros, je lui dirais, vas-y, pose-toi un endroit, un café, prends le train,
ouais.
Et discute avec ton voisin.
Sois random, en fait. Genre,
random.
Dire, c'est okay. Genre, si tu sais ce que tu veux,
ouais.
Être random, c'est pas forcément un problème. C'est parce qu'au final... ça va t'amener vers des endroits, mais si tu vois un petit peu vers là où tu veux aller, ça, enfin, tu sauras un peu comment rebondir sur chaque événement pour faire les connexions et aller vers là où tu veux aller, quoi. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, je sais pas, pour moi, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais en tout cas, ouais. Pour l'instant, ça fonctionne bien pour moi. Donc, moi, s'il me dirait comment toi t'as fait, je dirais que ça serait ça, quoi. Genre être un peu random.
Be random, guys. Et je pose toujours cette question, c'est... Si tu devais créer un free quelque chose.
Un free.
Ouais. Tu sais, il y a le free burger, okay. Free up,
ouais.
Free... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de free. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, là, ils me viennent pas.
Ouais.
Quel free est-ce que tu créerais? Vu que t'es dans Fribourg.
Ouais. C'est une bonne question. Mais je pense que ça serait un... Soit un free vibe, mais je crois que ça existe déjà.
Ah ouais?
Ouais.
Je sais pas. Je pense pas.
Ok, bah, okay bah, du coup.
Donc, allez, si Free Vibe n'existe voilà, pas, tu peux le lancer.
Free Vibe.
Ouais.
Et en gros, ça serait une maison un peu comme le Neighbor Hub, mais
ouais.
Plus en mode chilling spot. C'est-à-dire, c'est un endroit en fait, où tu sais que tu vas rencontrer des personnes qui sont surtout dans le domaine artistique et puis qui ont besoin de compétences dans différents domaines. Tu peux apprendre directement là-bas, tu peux. Juste venir te caler et puis attendre que quelqu'un vienne te taper la causette. Enfin, vraiment un endroit en fait, où tu viens te décontracter et puis apprendre. Enfin, parce que je pense qu'au final, l'apprentissage, c'est vraiment super important, mais un apprentissage qui est utile et qui est un apprentissage aussi qui correspond à tes besoins. Donc, voilà, ça serait une espèce de maison de jeunesse. Mais j'aime pas trop ce terme parce qu'il est très connoté en France. Et puis en général, c'est pas forcément associé à quelque chose de bien. Dans le sens où c'est quand même des maisons où t'as une certaine un endoctrinement quand même étatique où on te pousse à faire ce que tout le monde fait, quoi. Donc voilà, enfin, je dirais une maison où justement les gens se rencontrent et puis échangent, pourraient créer, etc.
Can do a free vibe activity on Neighbor Hub.
Ouais, pourquoi pas, franchement. C'est chaud.
La maison serait contente de t'accueillir.
Ouais.
Quel est ton quartier préféré? J'ai pas envie de poser le café parce que je fais toujours ça. Ouais.
Je pense que ce serait mon quartier. Là, j'habite, donc j'habite à côté du Belvédère.
Mm-hmm.
Et puis je trouve que c'est un quartier.
Faut que t'ailles au Ménamé.
Au Ménamé.
Du coup, c'est. Ah non, t'as dit au Belvédère. Ah non, ouais. Je croyais que c'était Boulevard de Pérols.
Non.
Je suis fatiguée.
Pas de soucis.
Donc, Belvédère, oui.
Ouais, parce que je garde souvent ce quartier. Il y a beaucoup de choses. Il y a un petit magasin de vrac où tu peux acheter des vrac, des légumes en vrac. Il y a une friperie. En gros, je retrouve un peu les endroits alternatifs que j'ai découverts dans différentes villes où j'étais, donc soit Barcelone, Marseille, etc. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que l'ambiance, elle est vraiment différente. Que dans les autres quartiers. Bon, après, j'ai peut-être pas assez vu les autres quartiers à Fribourg, mais je trouve que c'est assez cool comme
endroit. Mais c'est compliqué, non, pour faire les courses?
Bon, ça va. Ben, il y a une Migros juste en haut quand tu prends.
Ah.
Je me suis pris récemment un abonnement à les vélos au public. Je trouve que
c'est bien.
Franchement, c'est trop bien parce que du coup, tu as des vélos électriques, tu te déplaces dans Fribourg comme tu veux. Parce qu'avant, j'avais un vélo de route, mais c'est vrai que les pentes, des fois, tu les sens passer.
Ouais.
Et puis, arriver au boulot. Transpirant et tout, c'est pas le but, mais du coup quand t'es en vélo, genre il y a tout qui a 5 minutes, donc c'est assez cool.
T'as déjà partagé donc ce que tu voudrais faire dans Fribourg, donc ton projet qui est embryonnaire mais qu'on verra donc plus tard, on sait pas ce que c'est. Donc si ça existe déjà, enfin dans ta tête, ce que j'aimerais plutôt te demander, c'est quel est l'un des projets qui existe dans cette ville qui te plaît absolument.
Qui me plaît absolument.
Où tu te dis, waouh, je pensais pas qu'il y aurait ça dans Fribourg, en fait.
Une question, parce qu'il y en a plus qui me...
Tu peux en donner plusieurs aussi. Hein.
Ouais.
C'est pas fermé.
Ok. Un que j'aime beaucoup, après, c'est pas forcément un projet, mais c'est l'endroit, c'est le Nouveau Monde.
Ouais.
Je trouve que c'est vraiment cool ce qui se passe là-bas. J'aime bien aussi... Ouais. Je sais pas si c'est des projets, mais en tout cas, j'aime bien ce qu'ils font, ces patates douces. J'adore
Ah, t'as écouté Babouchka?
Ouais, justement. Et puis justement, enfin, je connais aussi Mugabo, et puis je croise aussi de temps en temps son grand frère. Et puis.
Qui sont beaux, apparemment, comme disait Isabelle.
Ouais.
Écoute, le podcast, elle est parfaite. Bref.
Non, non, c'est vrai qu'ils ont vraiment une bonne vibe. Et puis je trouve qu'ils apportent un côté différent aussi, un petit peu à Fribourg. C'est pas pour te saucer, mais j'adore ce que tu fais ici. J'adore l'idée de faire des podcasts, de rencontrer des personnes, de faire un peu en sorte que, typiquement, qu'il y ait des connexions qui se fassent alors que c'est des personnes qui font des choses un peu différentes. J'aime bien aussi le festival de cinéma, je trouve que ça apporte ouais. un peu de fraîcheur aussi à Fribourg. Ouais, voilà. Donc ça, c'est mes projets coup de cœur en tout cas.
Tes projets coup de cœur. Du coup, il y en a pas mal.
Ouais.
Du coup, cinéma et un peu musique, quoi, en fait.
Ouais. Ouais, je pense que c'est mes centres d'intérêt principaux.
Est-ce qu'il va y avoir un retour? Ah, mais oui, t'as dit qu'il allait y avoir un retour.
Pour
De toi, musicien.
Ouais. Ouais. Faut juste que je trouve en fait le bon environnement.
C'est vrai qu'à l'instant j'étais gâtée
parce que j'avais un peu.
T'avais tout ce qui venait à toi.
Ouais, j'avais le studio, j'avais un endroit où je pouvais vraiment me poser, faire de la musique. C'est vrai que des fois quand je suis à la maison, je suis plus tentée de bosser que faire de la musique du coup. Parce que mon bureau il est fait pour bosser. Mais si j'avais justement des néons et puis une ambiance un peu plus cosy.
Les néons. Ok, ça je comprends pas. Je suis désolée.
Ouais.
Mais les gens qui emploient les néons. Pour donner un côté, c'est pas cosy,
non.
Genre un côté fluo. C'est...
Enfin, quand je dis néon, c'est les lumières UV en fait. Parce que moi, ça me permet de me concentrer sur l'essentiel parce qu'en fait, les néons UV, ça fait ressortir
le truc est un peu genre le... bleu,
ouais,
méga.
C'est la lumière noire en fait, ouais. En fait, ça fait ressortir les couleurs blanches et du coup, ça fait ressortir mon clavier et du coup, ça me permet vraiment de me concentrer que sur ça. C'est pour ça que je l'utilise en fait, mais.
Ok. C'est not comprehensible,
not happening.
Non. Mais d'ailleurs, je vais te demander, parce que ton nom d'artiste, artiste, en tout cas, sur YouTube, on va dire ça comme ça. SoundCloud, je crois pas que j'ai été faire un tour.
Ouais, il y a plus de sons sur SoundCloud d'ailleurs, il y a plus de.
Si tu veux regarder. Bah, tu te décris en fait comme Papis.
Oui.
C'est ton vrai prénom?
Alors, c'est mon surnom, mais j'aime bien que les gens m'appellent Papis.
Ok.
En fait, si tu veux, je m'appelle donc Gamdi, donc c'est le prénom de mon grand-père, côté maternel. Et il y a cette petite tradition au Sénégal, quand t'as le prénom de ton grand-père, on t'appelle soit Pape ou Papi ou Papis.
Ouais.
Donc du coup, moi, un peu parce que c'est un grand homme quand même, pour lui faire un peu un big up, donc du coup, j'aime bien que les gens m'appellent Papis.
D'accord. C'était un grand homme, dans quel sens?
Alors, je suis très fier de raconter cette histoire, mais...
Vas-y, raconte.
Mon grand-père, c'était le premier directeur de l'imprimerie nationale, enfin, le premier directeur noir de l'imprimerie nationale au Sénégal.
Waouh.
Et donc, il a fait ses études en France, et puis il avait un peu ce côté philanthrope. Enfin, c'était vraiment une personne que je respecte beaucoup, même si je ne l'ai pas connu, parce que du coup, il est décédé deux ans avant que je sois née.
Ah mince, ouais.
Mais du coup...
Du coup, tu as des traces. Je veux dire, travailler dans l'imprimerie, tu dois avoir des traces.
Je sais pas, parce que...
Et du papier.
Du papier, non. Pourtant, j'écris pas forcément, je suis pas... Mais peut-être dans le côté créatif, je sais pas, parce qu'il aimait beaucoup lire aussi, donc j'aime beaucoup lire. Mais sinon, ouais. Il n'y a pas forcément des traces, à part peut-être dans la volonté d'être le premier dans quelque chose, je sais pas. Ça,
ouais.
Je sais pas.
D'ailleurs, t'en as vite fait un petit peu parler quand tu parlais de vibration coworking, que d'être parfois avec David pouvait aider parce qu'il avait ce regard un peu suisse, il comprenait les traditions.
Ouais.
Est-ce que t'as vraiment senti du coup ce décalage, parfois entre du... En fait, je viens d'ailleurs. Et puis ça se voit là dans les discussions.
Oui, ça se ressent souvent quand on va dans des rendez-vous.
Ouais.
C'est très fréquent. Bah après, non plus, je ne vais pas rentrer dans un discours de victime, mais je le ressens.
Ouais.
Que souvent, quand ils doivent dire des trucs importants, ils vont surtout regarder David et puis pas forcément moi. Ou ils vont attendre en fait de savoir exactement ce que je fais. Enfin, tant qu'en fait je me présente pas et que je dis pas ce que je fais et que je dis pas ma position dans l'entreprise, etc., il y a toujours cette vision de qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur, est-ce qu'il en a besoin de café? Non, ça va.
Mais c'est ça, donc il y a un peu ce côté. Bon, après, ça peut être un peu à double tranchant. Ça peut être parce que t'as l'air jeune.
Ouais, aussi.
Ou alors parce que t'es noire, tout simplement. Donc,
ouais, ça peut être. Peut-être que j'arrive tout le temps en Air Max aussi dans, dans les rendez-vous. Et puis ça,
oui,
ça aide pas. Mais non, je pense que ouais, c'est peut-être un tout.
Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, je suis assez reconnaissant parce que David, il a toujours ce côté, en fait, quand il sent que c'est en train de se passer, il dit « Ah, mais non, faut pas voir avec moi, faut voir avec Gandhi, c'est lui le boss. » Et puis ça crée toujours cette baisse de tension en mode « Ok, les gars, on est tous là pour discuter de cette affaire sérieuse, donc faisons dans un cadre agréable et inclusif. »
Ouais. On parle souvent d'inclusion, en fait, dans ce podcast. Mm-hmm. Et justement, Babushka a partagé la dernière fois en disant que... elle s'entourait de personnes, en fait, qui avaient, disons, une certaine sensibilité, en fait, à ce genre de situation qui pouvait arriver. Et du coup, c'est chouette que tu puisses travailler avec quelqu'un qui a conscience de ce qui se passe.
Ouais,
déjà, non, ou de temps en temps, en tout cas, conscience de ce qui se passe dans la salle.
Ouais.
Je pense que ça l'a allégé un peu.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu de travailler avec des personnes qui n'avaient pas cette conscience-là?
Pas vraiment, non. Enfin, je sais pas si c'est parce que je fais une sélection automatique ou si ça se fait juste naturellement, mais en tout cas, j'ai jamais eu à travailler avec des personnes qui n'avaient pas vraiment de sensibilité sur ces sujets-là.
Mm-hmm.
Et qui. Ça peut arriver d'avoir des petites blagues ou des trucs, mais justement, il suffit de dire une fois et puis ça suffit, quoi. Mm-hmm. C'est pas. Ouais, non. J'ai jamais eu. En tout cas, je suis jamais resté dans un cadre de travail où je me sentais pas à l'aise par rapport à ça, en tout cas.
2020 arrive bientôt.
Yes.
Qu'est-ce qu'on peut... Oh my God. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut te suivre déjà? Où est-ce que tu veux qu'on aille te suivre?
Alors, on a besoin de likes sur notre page Vibration Work in Share. Donc, donc petit pouce bleu sur la page. En général, on poste tout ce qui se passe là-dessus. Sinon, sur Instagram, je poste pas beaucoup. Je suis pas sur Snapchat, je suis pas sur Facebook. J'aime pas trop afficher ma vie privée sur les réseaux, mais des fois, je fais des
stories. D'ailleurs, j'ai vu un Twitter où t'as ton nom officiel.
Oui, mais je n'utilise pas.
Rien, il n'existe
pas. Justement, c'était la période où j'ai tenté d'aller sur Twitter, mais j'ai vu que non, ça va trop vite pour moi. Il y a trop de choses qui se passent. Mais ouais, faudrait que je retente encore. Mais en tout cas, non, sur... la plupart de mes activités, c'est visible sur les pages de Vibration.
Mm-hmm.
Ouais, voilà.
Donc sinon, t'es un homme de l'ombre. Donc allez suivre Vibration. et le reste, on sera petit à petit, en fait,
voilà,
c'est ça.
C'est ça.
Et si tout d'un coup, tu sors des sons...
Voilà, si je sors des sons, ça sera sur SoundCloud, du coup.
Sur SoundCloud.
Et puis, je pense que je ferai des petits rappels sur Instagram. Mais ouais, donc si vous voulez en tout cas voir ce que fait le collectif AOB, donc c'est AOB Agency.
Mm-hmm. Et... c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Dans AOB Agency, c'est bien que tu dises que c'est une agence, parce qu'on a plutôt parlé comme étant un truc de musique.
Ouais.
Mais dans la bio, dans la description, vous faites plein de choses.
Ouais. Donc il y a de la musique, il y a de la vidéo, il y a des personnes qui écrivent, il y a vraiment de tout.
Côté com aussi, j'ai
côté
vu.
Côté com aussi,
Enfin,
côté com, du coup, c'est moi qui prends ça un peu en
charge. Ah, tu.
Mais pour l'instant, en fait, le truc, c'est que, en fait, il y a une des personnes qui a vraiment percé, c'est Russell. Donc c'est, du coup, la première personne que j'ai rencontrée dans AOB.
Mm-hmm.
Donc qui est maintenant un G-son pour Alonso, pour Jules, surtout pour les artistes marseillais.
Okay. Donc en fait, si vous voulez rencontrer de vrais noms, il faut passer par Fabrice.
Mais en tout cas, lui, il a vraiment une bonne emprise sur le monde de la musique actuellement. Et justement, on va essayer de servir un peu de cette notoriété naissante pour développer des artistes qui... on aime bien ce qu'ils font, quoi. Donc ça aussi, ça sera donc en 2020-2021. On est en train de préparer un peu tout ça, quoi.
Ok, nice.
Voilà.
Gros projet, en fait.
Ouais, petit à petit, ouais.
Gros projet, parce que les Vibrations qui s'étendent, les autres projets avec AOB, tes projets pro.
Mm-hmm.
Alors du coup, moi, ce que je te souhaite, c'est... beaucoup d'heures de sommeil. Non, mais un bon time management.
Mm-hmm. Merci. Ouais. Bah, c'est vrai que j'essaie aussi de me focaliser un peu. Puis, parce qu'avant, j'avais vraiment 46 projets ouverts. J'avais mon trello qui allait dans tous les sens. Donc maintenant, j'essaie vraiment de me focaliser donc, sur Vibration, sur la musique et faire des connexions ici. Ouais, je pense que ça peut toujours être intéressant. Personnellement, j'en ai besoin. Donc,
Alors, welcome in the neighborhood.
Merci.
On va passer vite fait au pizza pépinier. Okay. Un rendez-vous.
Oui.
Ça va être très express. Et en tout cas, merci infiniment.
Ben, merci à toi.
Et c'était puis, à tout bientôt.
Ouais, à tout bientôt. Et puis, merci encore à toi. Enfin, merci Neighborhood de nous accueillir.
Vous venez donc d'écouter le dernier épisode du Pod du Hub, qui était un podcast éphémère, qui mettait donc en avant 6 personnalités qui font bouger cette ville autrement. Il va bien évidemment y avoir des épisodes bonus, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé d'interviewer d'autres personnalités qui font bouger cette ville, et honnêtement j'ai très très envie de pouvoir leur parler. Le contexte sera un petit peu différent, il n'y aura pas forcément de bisapé et de beignets à la fin de ces épisodes, mais ce sera juste l'idée de pouvoir découvrir toutes ces personnes en fait qui font bouger cette ville. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, merci beaucoup pour tous vos retours, tout votre soutien. Je vais vous laisser avec un petit bout de Oscar qui joue de l'accordéon. C'était donc ce dimanche, puisque juste à la fin de cet épisode avec Gamidi, on a fait une petite célébration de Noël dans le Neighbor Hub, qui était très sympathique. On a pu manger de la dinde végétarienne. Et à tout bientôt pour un épisode bonus qui sortira je ne sais pas quand, mais clairement en 2020. Passez de belles fêtes de fin d'année et see you soon.
Thank you.